c'est que ça, on reste une team, c'est-à-dire que tout le monde doit avoir le même niveau d'engagement, non pas pour moi, mais pour faire en sorte que ce projet soit autonome à terme. Donc voilà, on est tous dans un travail de nurturing, si je puis dire, autour des terres, pour qu'il grandisse progressivement et qu'il ait sa propre voix, sa propre identité, sa propre capacité finalement à transformer son industrie. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que mon objectif, c'est pas de produire du droit ou de produire de la stratégie juridique. Mon objectif, c'est de rendre service à mes clients. Et ça, c'est aussi une grande transformation. C'est-à-dire que je crée un organisme vivant dont la vocation est de rendre un service précis aux clients, qui est game changer pour les clients. Voilà. C'est ça qui est important. C'était déjà le cas chez Bold. Et c'est encore aujourd'hui le cas chez Ether. Il faut que ce soit game changer. Il faut que les gens se disent, je vais travailler avec eux parce que finalement, je serai plus la même entreprise avant, après qu'avant. Et chez Bold, on avait aussi ce postulat. On se disait, il faut que les gens se disent, si je suis une start-up sans Bold, ce sera pas pareil que si je suis une start-up avec Bold. Et là, c'est pareil pour les entreprises dans un spectre beaucoup plus large que Bold. Si je prends Ether, ce sera pas pareil après qu'avant.
Donc l'élément déclencheur aujourd'hui du fait de solliciter Ether, c'est de se dire je veux mettre en place de la recherche dans mon entreprise. Comment je fais? C'est-à-dire avec qui je travaille?
C'est pas tout à fait ça parce que aucun de nos clients actuels ne savait qu'il faisait de la recherche. Tu vois? C'est ce que je te dis. C'est pour ça qu'on n'allait pas faire de l'AdWords. Personne va taper sur Google. Je veux faire de la recherche. Comment je fais? Tu vois? Ce serait bien, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est bien plus compliqué que ça. C'est en fait vous en faites déjà. Toutes vos intuitions d'entrepreneur sont potentiellement des opérations de recherche. Mais en les confinant au simple fait d'être des intuitions entrepreneuriales, où vous êtes obligé de faire du test and learn, ce que tu as dit tout à l'heure, le test and learn, c'est de la recherche. En réalité, chez Bold, potentiellement, j'en faisais déjà, tu vois. Mais le test and learn, c'est déjà de la recherche en sciences humaines et sociales. Donc, le simple fait de le faire, c'est déjà en soi une opération de recherche potentielle. Après, à nous d'en faire une vraie opération de recherche. Et quand on en fait une vraie opération de recherche, on lui donne quoi? On lui donne une crédibilité. On se sait plus une lubie d'un entrepreneur ou d'un directeur de business unit ou je ne sais quoi. Ça devient quelque chose sur lequel on travaille de façon scientifique. Ça devient crédible, ça devient légitime et donc communicable. Et ça, c'est important.
Oui, on en revient quand même à aider les entreprises à faire du business derrière.
Pour rajouter là-dessus, on a nous-mêmes un laboratoire de recherche interne chez Ether. On demande nous-mêmes du crédit d'impôt recherche. Et d'ailleurs, à cet égard, je me suis réinscrite depuis le 23 octobre en doctorat pour devenir docteur en sciences de gestion.
C'est quoi ton sujet de recherche, du coup?
Trop facile, c'est le sujet de mon entreprise, l'impact de l'innovation sociale en entreprise. Le titre changera peut-être parce que c'est le titre que j'ai choisi pour m'inscrire, qui m'a permis de faire mon projet de recherche. Mais bien sûr, la thèse, elle sera terminée dans 3 ans. Donc le titre évoluera peut-être d'ici là.
Ok, est-ce qu'il y a des questions ou des observations, ou je sais pas.
Merci, bonjour et merci pour le témoignage. Moi, ma question c'était donc de ce que je comprends. Je suis désolée, je connais pas forcément votre structure. Je suis un petit peu amateur et novice en la matière. Ma question c'est comment vous faites pour organiser votre temps entre le développement du cabinet et du coup le traitement des dossiers concrètement, parce que on sait, enfin moi je suis jeune avocate et j'ai pas beaucoup de dossiers perso, mais le peu de dossiers perso que j'ai, ça me prend énormément de temps, voire peut-être plus que ce que je passe sur certains dossiers du cabinet parce que je sais que je vais être relue. Donc comment on fait pour créer sa structure, trouver le temps pour donner des prestations qualitatives aux clients et en même temps développer sa visibilité, sa marque et sa communication. Je pense notamment au magazine de 96 pages qui est impressionnant à monter en cette semaine avec 10 interviews. Donc je me demande et je suis intéressée de savoir comment vous avez fait pour vous organiser par rapport à ça.
Il y a plusieurs façons de procéder. Déjà, mon expérience Bold, mais que j'ai reproduit de façon un peu plus précise chez Ether, puisque quand on a déjà fait une première fois, c'est plus facile de refaire mieux une deuxième fois. On est très processé dans notre entreprise, vraiment. Et on utilise vraiment beaucoup d'outils. On travaille avec Notion, on travaille avec Pipedrive pour tous les prospects, donc Notion pour toute l'organisation du cabinet. On a des outils et on conserve énormément de choses. C'est-à-dire qu'on essaye d'éviter de faire et refaire ce qu'on a déjà fait. Tout est très organisé. On organise en faisant. C'est-à-dire que quand on travaille sur un dossier, un premier dossier, on décrit comme un millefeuille toutes les étapes par lesquelles on passe pour la fois d'après gagner du temps. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre ADN. Et c'était déjà le cas chez Bold, on n'avait pas le choix chez Bold pour pouvoir gagner en productivité. Chez Ether, on avait un peu plus le choix, mais on l'a inscrit dès l'origine dans la méthodologie de travail, ce qu'on impose aussi finalement à nous-mêmes et à toute l'équipe. Donc déjà, on est très méthodologique, on est très processé pour gagner du temps. Et ensuite, on s'impose, et ce que j'impose, alors aujourd'hui j'ai investi dans un autre cabinet d'avocats dans lequel je suis juste investisseur et que je soutiens aussi dans son organisation, j'ai imposé dans ce cabinet d'avocats ce qu'on avait fait chez Bold et ce que je fais chez Ether, c'est qu'une fois par semaine, on a une réunion d'équipe hebdomadaire sur laquelle on travaille sur les sujets de construction du projet. On n'est plus dans le run, on est dans le build. On est vraiment dans qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va vers la vision qu'on s'est proposée. Donc, c'est une décision aussi. Où je suis à 5 ans et comment chaque semaine, je vérifie que j'ai fait un pas de plus. Il faut comprendre qu'une année, elle passe vite. La seule chose qui importe, c'est de se retourner à la fin de l'année, d'avoir fait 365 pas vers l'objectif qu'on s'est fixé. Et puis si on en a oublié une centaine, on en a fait quand même 265. C'est déjà pas mal que rien du tout. Donc ça, c'est vraiment très important pour moi. C'est-à-dire qu'on a vraiment une organisation interne, presque comme un COMEX dans des grosses boîtes. Même si j'ai jamais été dans une grosse boîte, je pense que c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que j'ai entendu ce matin d'un de nos clients, nous, tous les ans, quand on fait nos budgets, parce qu'en ce moment, on est en période de budget, moi-même, je fais mes budgets tous les ans, on décide ce qu'on va faire dans 5 ans, tous les ans. Tous les ans. Donc, c'est exactement ce que je fais moi, à ma façon, de façon empirique, parce que moi, je l'ai pas appris et j'ai pas été dans une grosse boîte, mais chaque semaine, on fait le point sur, et puis, voilà, si ça n'a pas avancé, alors ça peut être avec soi-même. Pour être très honnête avec vous, moi, j'ai jamais été avec moi-même. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé la profession et que je me suis installée en 2004, du fait de m'être fait virer 2 fois pour cause de grossesse, donc j'ai dû m'installer en 2004, j'ai immédiatement créé une sorte de mini conseil d'administration. Comme ça, hein, spontanément, je l'ai pas fait avec à l'époque le recul que j'ai aujourd'hui. J'avais pris une coach. Et je la voyais tous les mois, parce que j'avais pas vraiment, des fois moins, selon les moyens que j'avais. Et, en tout cas, ça me faisait une sorte de conseil d'administration avec moi-même, c'est-à-dire que je vérifiais que j'avais avancé vers ce vers quoi je voulais aller. Donc, c'était déjà un petit peu dans ma façon d'être. Je suis pas une grande solitaire. J'aime bien travailler aussi en collectivité et l'échange nous permet quand même de gagner beaucoup. Donc, j'ai créé cette possibilité de chaque semaine de vérifier qu'on a avancé vers l'objectif. Et puis voilà, je fais des budgets et dans ces budgets, je décide qu'il y a une partie qui va être affectée au marketing. Et ben si c'est affecté au marketing, il faut qu'on le fasse. Et donc ça veut dire que si on le dépense, il faut le dépenser bien, il faut avoir un maximum de retour sur investissement. Donc voilà, c'est je réfléchis vraiment de façon entrepreneuriale et c'est pas quelque chose sur lequel je me laisse le choix.
Une autre question.
Ma question, c'est comment on fait pour passer peut-être d'un cabinet où, au début, on est 2, 3, 4 associés avec peut-être des spécialités de niche à quelque chose d'aussi 360 un peu qu'a pu l'être Bold.
Alors ça a été une grande difficulté hein, qui peut-être même a abîmé nos relations. Donc c'est pas forcément simple de l'expliquer. Bold a été une expérience incroyable, mais elle a été humainement compliquée aussi parce que quand on fait une telle disruption sur une industrie, c'est pas facile pour tout le monde. C'est quelque chose qui me paraissait évident. Le seul moyen d'y arriver, c'était d'uniformiser le service sur tous nos domaines de compétences. Donc, il fallait impérativement que les associés lâchent leur domaine de compétences. Bien entendu, ils devaient être en back-office pour s'assurer de la qualité, mais pas en front, et surtout pas en goulot d'étranglement vis-à-vis des collaborateurs. Donc, la façon dont on a procédé chez Bold, c'est qu'à un moment donné, on a créé des équipes autonomes qui étaient en capacité de gérer leurs dossiers de façon autonome et l'associé ne devait être qu'en back-office, c'est-à-dire que c'était les collaborateurs qui géraient l'intégralité des demandes des clients. Et si le collaborateur se sentait en limite de compétences, il était dans sa responsabilité de demander à l'associé de l'aide. Donc on a complètement inversé le système des cabinets d'avocats classiques. Et les associés sont montés sur d'autres niveaux de compétences, que ce soit en marketing, justement, que ce soit en vente, que ce soit en RH, etc., etc. Tout en conservant quand même leur expertise. Aujourd'hui, chez Ether, par exemple, moi, je ne suis pas du tout, je ne suis quasiment pas dans les dossiers. Alors, je reprends un peu sur la partie scientifique, puisqu'en devenant doctorante, j'ai intérêt à reprendre sur la partie scientifique pour gagner en compétences. Mais sur la partie fiscale, que je maîtrise parfaitement, je suis quasiment pas. Par contre, mon associé et ma collaboratrice et notre collaboratrice savent toutes les deux, parce que je suis la plus expérimentée en contrôle fiscaux, par exemple, que si elles sont en limite de compétences ou si elles ont pas d'idée ou elles savent pas comment faire, qu'elles peuvent à tout moment me solliciter. Ça permet plusieurs choses. Ça permet d'abord de les faire monter, elles, au niveau de compétences, ce qui était ce qu'on voulait chez Bol pour quand on a 100 collaborateurs, on a plus intérêt à ce qu'ils montent en niveau de compétences, parce que je peux vous assurer que si on s'amuse à se faire goulot d'étranglement, on étouffe et on crève. Hein. Donc, c'est juste pas possible de revérifier le travail de tout le monde. Donc, c'était impératif de le faire. C'est toujours le cas chez Ether. Et puis, ça permet surtout de se libérer de la charge mentale. Parce que la problématique, c'est que si on veut libérer du temps pour développer, on ne peut pas avoir la charge mentale des dates, des obligations, des choses comme ça. Il faut impérativement que quelqu'un d'autre ait de la charge mentale. Et je parle pas de la capacité à faire, je parle bien de la charge mentale. Qui est responsable du dossier? Et ça, c'est fondamental. Cette notion de charge mentale, hein, voilà, pas besoin de vous dire, hein, les quatre gosses, les machins, les bidules, cette notion de charge mentale, c'est fondamental dans une entreprise. Et c'est d'ailleurs à ça qu'on sait si on a engagé la bonne personne ou pas. Chaque personne qui va vous débarrasser de la charge mentale est une bonne personne. C'est pas sa compétence technique, hein, si je peux me permettre ce petit conseil au passage.